Sur la terrasse attendait une infirmière en blouse cintrée qui proposa un rafraîchissement aux visiteurs, puis leur remit des chaussons stérilisés, des masques, et les précéda dans un hall garni de statues égyptiennes. « Je vous accorde 5 minutes, » dit-elle. « Ne le fatiguez pas. » Ils la suivirent dans l'escalier en pierre. Au bout d'un couloir tapissé d'aubussons, elle ouvrit une porte capitonnée. La chambre était lambrissée de palissandres. 6 fenêtres donnaient sur la baie entre les doubles rideaux de velours prune. Le mobilier en pierre contrastait avec l'appareil de dialyse, le respirateur, l'électrocardiographe et les moniteurs de contrôle qui encadraient le grand lit à moustiquaires.
« Soyez le bienvenu, juge Claiborne. Content de vous revoir, Irwin, mais ne restez pas à contre-jour approché. »
Le conseiller scientifique avança sur la moquette blanche en dissimulant son malaise. Le docteur Sandersen était devenu un squelette à lunettes dans un pyjama rouge, la lèvre supérieure déformée par la canule de son respirateur. Un prêtre noir assis à son chevet, les cheveux blancs frisottés, les sourcils en broussailles et de grosses joues de trompettiste, se leva en refermant un dossier.
« Le père Dunaway qui a assuré l'instruction du sujet pendant ses premières années »,
présenta Sandersen en sortant une main décharnée de sous le drap.
« Il dirige ma fondation. Je n'ai pas d'héritier et c'est lui qui, après mon décès, gérera l'exploitation d'Oméga. »
« Clone ou pas, » riposta vertement Irwin derrière son masque isolant, « il s'agit d'un homme libre sur lequel vous n'avez aucun droit de tutelle. »
Le juge Claiborne objecta que l'an dernier, un tribunal des Bahamas avait accordé, au décès d'un cloné, la garde du clone orphelin au généticien cloneur. Irwin, étranger aux subtilités des négociations juridiques, fusilla du regard son compagnon de mission qui trahissait apparemment leurs intérêts en donnant des arguments à la partie adverse.
« Je sais, » commenta Sandersen.
Il s'agissait d'un mineur. Au-delà, le législateur ne se prononce pas, il n'existe aucune jurisprudence.
« Et l'esclavage est aboli, que je sache, » renchérit Irwin. « L'être humain n'est pas brevetable. »
« Mais son procédé de conception, si, » répondit calmement Sandersen de sa voix caverneuse. « Vous pouvez utiliser les services de Jimmy, c'est son nom, tant que vous le voudrez, à la condition qu'il soit d'accord, il est en effet libre de sa personne, et je n'agis qu'en intermédiaire. Mais vous devrez le présenter comme un adulte ordinaire, ce qui n'offre pas grand intérêt pour vous. » Dès lors que vous ferez état en public de ses origines et de la manière dont il est venu au monde, je vous attaquerai en justice, à moins que vous n'ayez acquis la licence permettant d'utiliser le produit de mes brevets. L'exploiter médiatiquement en tant que clone de Jésus-Christ implique mon accord, le respect de mon droit moral d'inventeur et ma rétribution.
Irwin resta muet. Habilement, Claiborne contourna le problème en feignant de s'étonner que le Jimmy en question, représentant un tel enjeu financier, n'ait pas été retrouvé plus tôt.
Jusqu'alors, il n'avait jamais été malade ni accidenté,
justifia le cloneur.
N'ayant pas subi d'examen médical, il a échappé au relevé d'empreintes génétiques, sans lesquelles le programme Jonas ne pouvait le retrouver.
Comment êtes-vous en possession d'un logiciel du FBI ?
Tout s'achète, Irwin. Surtout quand les gens ne savent pas ce qu'ils vendent. Mais l'important n'est pas là. Bénissons le chien qui, en le mordant, a rendu au monde son sauveur.
Comme par hasard, au moment où le clonage humain redevient légal, se rengorgea Claiborne avec un sourire fin.
Voyez-y un signe. Les temps sont venus, messieurs. Il a 32 ans, il ignore tout des conditions de sa naissance. Il est célibataire et mène depuis toujours une vie de pauvre exemplaire dans l'anonymat le plus complet. Si vous désirez faire connaissance, voici son CV, ses coordonnées et quelques images prises à son insu.
Le père Dunaway tendit un MD au conseiller juridique qui s'empressa d'ouvrir son ordinateur. Réfrénant un mélange d'excitation et d'écœurement, Irwin fixa l'écran sur lequel apparut la procédure à suivre pour lire le document. « Quel est le code d'accès ?»«
Mes avocats vous l'indiqueront lorsque vous aurez signé le protocole d'accord. »«
Je veux voir ce que j'achète, » précisa le juge.
Le protocole n'est qu'un engagement à respecter les modalités de mes brevets, en contrepartie des droits cédés.
Droit d'utiliser et reproduire l'image, la généalogie, les déclarations du sujet.
Luc Leborn qui faisait défiler le protocole sur l'écran avec un début de nervosité.
Renoncement du cessionnaire aux poursuites judiciaires qui pourraient être engagées contre le cédant, pour tout propos diffamatoire ou subversif émanant du cédé. Pourcentage à reverser au cédant sur l'exploitation financière des retombées d'éventuels miracles. C'est n'importe quoi. Il n'est pas question d'accepter ce genre de clause.
Sandersen fit signe au prêtre qui lui tendit un verre. Il y trempa ses lèvres, toussa et retomba au creux de l'oreiller, les lunettes de travers, un filet d'eau au coin des lèvres.
« C'est à prendre ou à laisser, » répondit-il avec une énergie sereine et précise, sans rapport avec le délabrement de son corps. « J'ai été bafoué, spolié, ruiné par l'administration Bush. Je ne ferai aucun cadeau à la vôtre. Si vous ne voulez pas de mon Christ aux conditions fixées, je le cède à n'importe quelle secte qui saura s'en servir à merveille contre les intérêts américains, les pharisiens de la mondialisation, Sodome et Gomorre à la Maison-Blanche et les marchands du Temple aux commandes de Wall Street, mobilisant une force mystique populaire contre laquelle on ne peut lutter qu'en la manipulant. Le président le sait. Et c'est pourquoi vous êtes ici avec carte blanche et crédit illimité afin de faire jouer la préemption de l'État. »
Les deux émissaires évitèrent de se regarder, fixant machinalement l'électrocardiographe qui traçait des pics sous l'accès de colère froide du généticien. Le juge fit l'impasse sur les dernières déclarations et lança d'un ton sobre
« Qu'est-ce qui nous prouve que votre clone est un Christ en puissance ?»«
Rien. Voyez et vous croirez. Ou pas. Je vous laisse une option de 8 jours à dater du premier contact pour mener sur lui toutes les investigations biologiques et morales qui vous paraîtront nécessaires, et décider ou non de l'employer au service de l'État. Le père Donoway sera présent, intégré à l'équipe que vous choisirez pour effectuer vos différents tests. »
Qu'entendez-vous par « employé au service de l'État » ?
Vos avocats définiront avec les miens le champ d'application de la licence, en fonction des souhaits de votre président. Je sais qu'il est particulièrement sensible au recul de l'Église catholique dans le monde. Sans doute serait-il ravi d'offrir au pape un nouveau Messie en échange d'une dérogation.
Quelle dérogation ?
L'autorisation d'épouser religieusement Antonio, qui est divorcé d'un premier lit.
Claiborne sourit intérieurement. Le cynisme de ce moribond tubé avait quelque chose de réconfortant. Avec un homme à la dernière extrémité, prêt à tout pour exercer un ultime pouvoir, on trouvait toujours moyen de s'entendre.
« Il va sans dire, » laissa tomber le juge, « que si l'on découvrait que l'ADN de votre clone n'est pas identique à celui du sang figurant sur le Saint-Suaire,
nos accords seraient caduques, » acheva Sandersen en remontant le drap sous son menton, et ouvrirait droit à des dommages et intérêts sur la figure en annexe au pré-contrat de cession. Mes avocats vous attendent au salon. »
Il laissa aller sa tête en arrière et signifia la fin de l'entretien en fermant les yeux. Le père Dunaway reconduisit les deux envoyés de Washington jusqu'au seuil de la chambre où stationnait l'infirmière. La porte se referma sans un bruit. Au creux de l'oreiller, Philip Sandersen souriait sous la canule de son respirateur. Il ne craignait plus la mort dès lors qu'il était certain d'entrer dans l'histoire. Peu lui importait que ce fût comme le plus grand généticien du monde ou le génial faussaire qui, à 30 ans d'écart, aurait vendu la peau du Christ à 2 présidents américains.